Un invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h, 21h, Tour de piste est sur Principe Actif.
Les cicatrices ont l'étrange pouvoir de nous rappeler que notre passé est réel, pouvait-on lire dans le roman de Six jolis chevaux de Cormac McCarthy. De ces cicatrices, l'américain Vic Chestnut en a fait des chansons et laisse derrière lui une œuvre dense et authentique qui, en 17 albums, dont 14 sous son nom, a fait de lui une des figures les plus émouvantes de la scène folk des années 90 et 2000. Né en 1964 à Jacksonville, puis adopté et élevé à Athens en Géorgie, il aura toute sa vie durant ou presque flirté avec la mort avant de nous quitter en 2009. Auteur de Vic Chestnut, Le calme et la fureur, paru chez Playlist Society en avril 2024, Thierry Jourdain est mon invité. Il est accompagné par Yann Lafosse, alias My North Eye, qui nous jouera quelques titres de Chestnut en acoustique. Bienvenue dans l'émission Tour de piste. Yann et Thierry, merci d'être à nouveau à mes côtés pour faire revivre Vic Chestnut et son œuvre Le temps du théorique de ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Thierry, j'ai eu le plaisir de te recevoir plusieurs fois ici même dans l'émission Tour de piste ou à la médiathèque d'Evreux pour venir nous parler de tes livres sur des artistes comme Bruce Springsteen, Elliott Smith, R.E.M., Troy Van Balthazar de Chocbord. Qu'est-ce qui lie les gens que je viens de citer, un artiste comme Vic Chestnut, et qui t'a donné envie d'écrire un livre à leur sujet ?
Alors déjà, c'est le fait, je pense, qu'il n'y ait aucun livre à ce jour, en dehors du mien, pour le coup, sur lui. Souvent, ça part d'une envie un peu égoïste, en fait, quand je commence un livre. C'est, en fait, j'écris finalement le livre que j'aurais aimé trouver en librairie ou sur Internet, qui n'existe pas. Qui est voilà, de combler un chaînon manquant, en fait, et voilà, c'est venu comme ça. Et Vic Chestnut, c'est quelqu'un que j'ai découvert par le biais d'REM, donc de Michael Stipe, en 1993 ou 14, donc après pas mal d'autres personnes pour le coup, donc un petit peu à rebours. Il avait déjà sorti 4 albums, mais qui m'accompagne, voilà, du coup on est en 2025, donc voilà, ça fait 21 ans maintenant.
On peut en ce début d'émission revenir sur son arrivée au monde en 64 et ses premières années sur Terre.
Je réfléchissais en préparant un peu l'émission. En fait, c'est un peu une sorte de Bernie, en fait, Bernie Noël du film du Dupontel. En fait, alors, il n'a pas été retrouvé dans une poubelle, mais il a été retrouvé sur le bas-côté de la route en Floride. Et voilà, il n'a jamais connu ses parents biologiques et il a été vraiment littéralement récupéré par un couple qui sont devenus ses parents adoptifs et ses parents de cœur, sur le bas-côté d'une route à la fin de l'année 1964. Donc ça, voilà, ça donne déjà quelques clés un peu sur le personnage, en fait. Et du coup, la famille, en fait, a vécu en Floride les 5 premières années de sa vie. Et après, pour le travail, en fait, il migre vers en Géorgie. Alors pas Athens tout de suite, c'est Zébulon. Voilà. Et après, c'est un peu plus tard, en fait, quand il est adulte, où il va aller à Athens, en fait, qui est une ville foisonnante et voilà, d'un vivier artistique très important. Mais du coup, c'est plus tard, à ses 18 ans, en fait, où il va aller à Athens.
Tu pourrais nous décrire l'ambiance familiale, le contexte de la famille adoptive de Vic Chestnut ?
Alors au-delà du contexte familial, en fait, c'est vraiment le contexte géographique. C'est que c'est quelqu'un qui vient du sud et... Alors quand j'ai interviewé que deux personnes pour le coup, mais deux personnes assez, assez importantes. J'ai interviewé Michael Stipe de R.E.M. et puis Christine Hertz de Throwing Muse, qui connaissent bien le sud des États-Unis, en fait, et qui me disaient, en fait, quand on vient du sud des États-Unis, avant d'être américain, on vient du sud. Parce qu'il y a vraiment un poids historique, social, politique, qui vient, en fait, voilà, de l'esclavagisme et toute l'histoire, en fait, qui émane de ce coin, donc le Ku Klux Klan, etc. Donc du coup, là-bas, on est un peu déjà empreint de tout ce côté post-esclavagiste. Donc on est soit, en fait, on continue soit sur ces idées nauséabondes, soit, en fait, on va grandir en voulant s'en excuser à vie. Et du coup, sa famille, en fait, était un peu entre les deux, parce qu'a priori, il aurait des ancêtres... qui aurait un peu flirté avec le Ku Klux Klan du côté de son père, de son grand-père, enfin voilà, un peu plus loin, pas eux directement. Et puis une famille donc qui était tournée vers la musique, en fait, le grand-père qui chantait, qui jouait brillamment de la guitare, une grand-mère aussi qui faisait de la musique. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc il a grandi dans un contexte social, familial, aimant. Voilà, c'était une famille aimante. À ses 5 ans est née une petite sœur, pour le coup, du fruit de son père, sa mère, donc une demi-sœur, mais voilà, qu'il considère comme sa sœur. Il a toujours été soutenu, il a toujours été aimé, en fait, par sa famille. Mais effectivement, voilà, il y a le trauma inconscient de cette adoption et des origines inconnues, finalement, ont quand même marqué chez lui quelque chose voilà, qui n'a jamais été vraiment réparé.
Quel sentiment le sud des États-Unis va inspirer Avik Chesnut ?
Un dégoût absolu, en fait. Alors, on était venu avec Yann et avec Thomas à l'époque pour présenter un livre sur Elliott Smith, du coup, qui vient pas du sud des États-Unis, mais qui vient du Texas, en fait, d'un autre coin, et qui, pareil, c'était un État qui l'exécrait, en fait, qui a vraiment eu une influence terrible sur lui. Et du coup, Avik Chesnut, c'est exactement le cas, en fait. Pour lui, c'était... Alors, donc il vient de la Floride, et pour lui, en fait, la Floride, c'est pas du tout ce qu'on imagine avec aller passer des vacances au soleil. Pour lui, c'est juste un coin, en fait, inutile où on va mourir, quoi. Il y a une chanson, la seule chanson, en fait, qui fait référence à vraiment la Floride, c'est Florida, en fait, sur un de ses albums. Et un de ses amis, en fait, plus tard, est retourné là-bas, en fait, pour se suicider. Ouais, et donc, pour lui, ça n'évoque que ça, en fait, ça évoque juste un état où... Où il a été abandonné par sa famille biologique et où finalement on y va pour dire au revoir à la vie. Et puis la Géorgie, donc le sud, c'est un état pour lui de redneck, de personnes hyper catho, racistes, homophobes, masculinité, on parle de masculinité toxique aujourd'hui, on n'en parlait pas à l'époque, mais c'était ça en fait, c'était des chasseurs, c'était des personnes qui vont à l'église, et qui vont répéter les erreurs du passé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il a voulu fuir. Il n'a pas forcément des parents lettrés qui ont fait des hautes études, mais du coup, lui, ça lui a donné l'envie de fuir en fait, cette réalité-là, de s'isoler vraiment, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Et ça lui a donné envie de lire, en fait, voilà. Donc de lire beaucoup, beaucoup d'auteurs du sud des États-Unis, William Faulkner... voilà, Cormac McCarthy, enfin beaucoup d'auteurs du sud des États-Unis en fait qui lui ont inspiré déjà une façon d'écrire en fait, une manière de tourner un peu en dérision un quotidien sérieux et sombre, mais d'en faire autre chose. Voilà, et ça lui a donné envie de faire ses premières chansons comme ça.
Et la musique, elle entre quand et comment dans la vie de Chesnut?
Très très tôt, du coup, comme je disais, son grand-père était déjà musicien. En fait, il avait vraiment, il était très humble par rapport à la musique, en fait. Et quand il entendait son grand-père jouer, pour lui, il était vraiment lui, Avik Chesnut, était vraiment très mauvais à côté de son grand-père. Donc, il avait un peu honte presque de jouer. Mais du coup, il a appris beaucoup d'accords qu'il n'arrivait pas forcément à faire à l'époque. Et puis sa première chanson, en fait, la légende dit qu'il l'a écrite à l'âge de 5 ans. En fait, elle s'appelle God. Donc, il n'y a aucun enregistrement. Hein, c'est juste lui à qui on a parlé lors d'interview. Et en fait, le refrain, c'était « There's no God ». Déjà à l'époque, en fait, où je crois que, sans vouloir spoiler, je crois qu'il va y avoir des chansons qui vont être jouées en live. une chanson qui va parler d'athéisme. Mais du coup, voilà, déjà à 5 ans, en fait, il avait déjà une conscience de se dire « Je ne crois pas en Dieu. Voilà, il n'y a pas de Dieu. En fait, je suis athée. » Et du coup, de chanter ça quand même dans le salon familial, c'était quand même assez déjà revendicateur à l'époque.
Et on va ouvrir la programmation musicale avec un extrait, de son premier album Little, sorti en 1990. Ça s'appelle Isadora Duncan. Comment il va se passer l'enregistrement de ce premier album Little?
Pour dire, c'est une chanson. Tu m'as demandé en fait une petite liste de chansons. En fait, je l'ai vraiment donnée instinctivement parce que c'est une chanson. Déjà, moi, c'est la première chanson que j'ai entendue de Avik Chesnut puisque c'est le premier disque que j'ai eu de lui. Et c'est une chanson quand il parlait d'elle. C'était pour lui sa première chanson d'adulte. Il a dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la première chanson qu'il a écrite quand il s'est relevé en fait de son accident, parce qu'on l'a pas encore dit,
on en parlera, l'accident qu'il
a eu à l'âge de jeune adulte, en fait, il a un accident de voiture, on en parlera plus tard, mais du coup, qui le laisse paraplégique, donc il ne remarchera jamais. Et à l'hôpital, c'est la première chanson, en fait, qu'il va commencer à écrire, en fait, il dit à l'âge adulte, voilà, pour lui. Donc, il y a un avant et un après l'accident. Et l'enregistrement de l'album, pardon, je digresse, il s'est fait en une journée. Alors, du coup, il y a Yann Minor Fight tout à l'heure, il va jouer deux morceaux. Et pour moi, c'est un peu mon Vic Chestnut parce qu'il est capable d'enregistrer des albums incroyables en une journée. Ça, franchement, je ne sais pas qui peut le faire. Donc, voilà, là-bas, il y a Vic Chestnut. Ici, nous, on a Yann Lafosse. Du coup, ça s'est fait en une journée. Et j'ai passé beaucoup de temps, du coup, pour découvrir beaucoup de choses sur cet album, sur la discographie de Vic Chestnut. Et la chance, c'est d'avoir maintenant Internet. Et du coup, j'ai écumé toutes les émissions de radio possibles, toutes les interviews papier, en ligne, etc. Et on savait pas trop, en fait, comment cet album avait été fait. Il est produit par Michael Stipe d'REM,
ouais,
qui l'a pris sous son aile.
En cours d'émission.
Michael Stipe le découvre en 1985, à Athènes, en Géorgie. Et du coup, en fait, il a tout de suite envie de l'enregistrer. Il sait déjà que Vic Chestnut, en fait, va pas faire long feu. Parce que il est tout le temps ivre, tout le temps... presque tombé ivre mort de son fauteuil en fait quand il joue sur scène. Et il disait il faut vraiment que je pose sur bande en fait pour la postérité tes chansons avant que tu meures dans le caniveau. Donc il y a 5 ans en fait qui se sont passés avant que le premier album sorte. Il sort en 90 mais il a été enregistré en 1988 et je savais pas trop en fait dans quel contexte, pourquoi une seule journée. Et du coup je l'ai découvert en fait en faisant des recherches, c'est qu'en fait Michael Stipe produisait un autre album d'un autre groupe dont j'ai oublié le nom mais qui est dans mon livre. Et du coup en fait les sessions studio de ce groupe là en fait se sont finies un jour plus tôt. Et il a appelé Vic en fait en lui disant écoute, ça fait quelques années qu'on en parle et là il y a le studio qui est réservé, si tu veux demain, en fait, voilà, j'ai le studio encore dispo et tu peux venir enregistrer. Et donc, ils ont enregistré 11 ou 12 titres et du coup, 10 ont été gardés pour faire Little. Donc, c'est quasiment une prise unique à chaque fois.
closed her new directions paper book and screamed, "There is no shelter in the arts." She'd been crying all day, but now her eyes, they were brighter than the moon. And she sang, "My smile is more than pearly white, my dreams are more than you." She sang, "My yellow eyes are more than is a more than blue." And she sang, "I can't believe you own this attitude. I can't believe it. I can't believe you own this attitude. But, I can't believe it. I can't believe on this attitude."
Et c'était Isadora Duncan de Vic Chestnut, extrait de son tout premier album enregistré en une journée, Little. C'était sorti en 1990. On peut citer, Thierry, les musiciens qui ont inspiré Vic Chestnut?
Alors inspiré, je sais pas, mais en tout cas qui ont vraiment beaucoup compté pour lui. Ouais, il y a John Lennon clairement. Et d'ailleurs, en fait, quand tu me demandais un peu comment il s'est mis à composer, etc., à jouer, c'est vraiment le à la suite. Pardon si je me trompe, mais je crois que c'est le 8 décembre 80 où il décède. Je suis pas sûr. En tout cas, c'est en 80. John Lennon, et du coup, Vic Chestnut l'apprend à la radio et c'est un électrochoc pour lui parce qu'il est un fan incommensurable de John Lennon, des Beatles, et c'est ça qui lui donne aussi envie de jouer, en fait, de lui aussi se dire, allez, moi, je vais faire des chansons. Et voilà, donc il y a John Lennon, Leonard Cohen, Bob Dylan et The Velvet Underground, Lou Reed. Voilà, en musique, c'est ces quatre principales sources. Alors après, il y a des interviews qui vont contredire ce que je dis, mais en ramifiant vraiment tout, c'est les quatre un peu piliers fondamentaux dans son écriture.
C'est les pierres édificales, comme on dit. Alors, tu viens de nous parler des groupes et musiciens qui l'ont marqué. On peut citer les poètes et les poèmes qui l'ont le plus inspiré aussi. C'est la poésie, c'est très important.
Ouais, ouais,
cette note.
Du coup, alors, pour le coup, il me faut des antisèches parce qu'il y en a énormément et ils sont pas forcément tous connus. Et je sais qu'il y a un chapitre où je liste un peu tout ça parce que très souvent, il y a des chansons tout au long de sa discographie qui vont porter en titre le nom d'un des poètes en fait qui lui sont chers, mais ça peut être des poètes totalement inconnus ou pas forcément qui ont daté l'histoire de la poésie. Il y a Wallace Stevens qui était parce que vraiment je suis désolé, mais j'ai vraiment pas arrivé à m'en dire. Je crois que c'est un poète écossais qui vraiment est tombé dans l'oubli absolu et qui donc a une trajectoire vraiment sordide et en fait dont il raconte la vie dans l'histoire dans la chanson qui est sur North Star Deserter en 2007. Et il y a Stevie Smith aussi, pareil, que je ne connaissais absolument pas en fait. Donc c'était une femme qui pour le coup en fait a été vraiment importante dans le monde de la poésie, dont il a titré une chanson sur son premier album Little, et qui a aussi mis en musique un poème pour son troisième album, je crois. Voilà, enfin il y a beaucoup de poètes qui l'ont inspiré.
Et alors, il y a une particularité de plus aussi, Vic Chestnut, c'est qu'il distingue chanson et poésie. C'est-à-dire que, voilà, il écrit d'un côté des poèmes et il écrit de l'autre côté de la musique et des chansons.
Oui, et du coup, attends, j'ai retrouvé, parce que j'ai mon livre entre les mains. Les auditeurs veulent, il y a Norman Nicholson, W.R. Rogers, Vernon Watkins aussi, qui est le titre d'une chanson sur son premier album, et donc vraiment voilà, c'est Stevie Smith qui l'a vraiment marqué. Pardon. Du coup, oui, différence entre poésie et musique.
Vraiment chanson et poésie.
Oui, en fait, parce que pour lui, l'écriture, il différencie vraiment en fait ces deux façons de faire, et pour lui, c'est des poèmes mis en musique, en fait, plus que des chansons à proprement parler. Et c'est pour ça même, dans la sélection en fait, que tu m'as proposé de faire, il y a des chansons qui ne sont pas forcément... couplet-refrain, il y a une chanson qui s'appelle Bug, qui est sur le deuxième album, où en fait c'est presque du cut-up, en fait, des bouts de phrases en fait, collés les unes entre les autres, qui sont vraiment un procédé en fait littéraire et ou poétique. En fait, des phrases, en fait, des tags qu'il avait vus en fait une journée en se baladant en fait dans la rue. Il avait noté plein de tags, plein de phrases en fait, et c'est devenu en fait les couplets en fait de la chanson. Donc, il écrivait en fait avant de faire vraiment des chansons. Et c'est pour ça, je pense, mis à part John Lennon, que des personnes comme Lou Reed, Leonard Cohen ou Bob Dylan en fait ont été vraiment très importants pour lui. Quand tu me demandais des musiciens, c'est que c'était pas que des personnes qui faisaient des chansons, c'était vraiment des poètes. Et encore que John Lennon, on peut le considérer aussi voilà, comme un poète, évidemment. Mais c'était, ouais, il y avait un côté lettré un peu au-delà juste de la pop song, qui n'est pas dénigrante, mais qui du coup, lui, le touchait moins en fait dans son rapport à la musique.
Ouais, c'est vraiment les artistes dont tu parlais, c'est vraiment des artistes qui ont mis l'ambition poétique et littéraire au centre,
ouais, tout à fait,
au centre de leur démarche. Donc on a Yann Lafosse, Miner's Eye, qui est là. On va d'abord écouter justement un poème, un petit extrait de la poétesse Stevie Smith. C'est Stevie Smith reading Not Raving But Drink, que Yann va nous traduire. Et ensuite, tu joueras en acoustique dans l'émission Speed Racer. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Est-ce que le premier album, c'est un...
Enfin... Alors, moi, je l'ai choisi parce que c'est un morceau qui m'a toujours plu. J'ai toujours beaucoup aimé. Je trouvais que le texte était très intéressant. Voilà, et je pense que Thierry, c'est un morceau que tu aimes beaucoup. Voilà. Donc, mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce disque, et j'aime bien aussi ben, son premier, et peut-être sa période plus tardive, avec quand il y a beaucoup plus d'orchestration, là, avec Silver Manzan, etc. Mais c'est vraiment le morceau du premier album que je préfère. Voilà, donc, j'ai repris celui-là.
Nobody heard him, the dead man, but still he lay moaning.
Personne ne l'a entendu mourir, mais on l'entendait toujours se plaindre et dire... J'étais beaucoup plus au large qu'on ne pouvait le penser. Non, je ne faisais pas signe en direction du rivage. J'étais en train de me noyer. Le pauvre, il a toujours aimé les blagues, et maintenant, il est mort. Il a dû avoir trop froid dans l'eau, et son cœur a lâché. En fait, pour lui, il faisait toujours trop froid, et on l'entendait toujours, le mort, se plaindre qu'il avait été... trop loin du rivage toute sa vie, à se noyer sans jamais nous faire signe.
The closest thing to truth in the universe. try to spray me with your archaic rites of soul. Your vision is a biological one. I can dodge the thunderbolt and scratch out an existence on this glorious but simple plane. I'm not a victim, no, I'm intelligent, I'm intelligent. I'm not a victim, no, I'm an atheist.
Vous êtes dans l'émission Tour de Piste sur les ondes de la radio hébreuxienne Principe Actif. Vous venez d'entendre à l'instant Speed Racer de Vic Chestnut, repris par l'artiste rouennais Mine Horse Eye. Et juste avant, c'était un poème de Stevie Smith qui a largement influencé Vic Chestnut, qui s'appelait Not Waving But Drawing, traduit par Mine Horse Eye, justement. Alors Yann, toi, tu as joué en première partie de Vic Chestnut.
Effectivement, ouais.
J'imagine que ça doit être un souvenir.
Ah ouais, incroyable. Ouais. C'était incroyable. De mémoire, janvier 2008. Voilà, donc c'était dans la salle...
C'est novembre 2007.
D'accord, novembre 2007, tu vois, je ne me souviens plus.
Je suis ton biographe, parce que je suis aussi le biographe de Man on Fire.
Et donc, du coup, c'était dans une salle à Rouen qui risque d'être réutilisée, mais qui s'appelait Sainte-Croix-des-Pelletier. Donc, il y a une chapelle, donc c'est un lieu... très dur à sonoriser, mais qui sonne très très bien quand c'est bien sonorisé. Et le concert de Vic Chestnut était totalement incroyable. Voilà.
T'as eu la chance de le croiser, de discuter avec lui ?
Oui, du coup, enfin, pas énormément, mais oui, il était très très sympa. Du coup, il a écouté mon set. Alors, à l'époque, je faisais des... J'avais une pédale de sample, je samplais ma guitare, et donc j'étais tout seul, voilà, guitare électrique, voix. Et il m'a dit, ah, très cool ton petit set avec les boucles, toi, très gentil. Parce que bon, c'était Vic Chestnut, quoi. Donc pas du tout un mec qui se la pète, etc.
Ouais, et puis vous avez un truc en commun, ce que disait Thierry tout à l'heure, quoi, dans l'approche de la musique, de la poésie, puis dans cette rugosité, ce truc un peu essentiel.
Et ce qui était très touchant, c'est que tu avais tous les autres super musiciens. Donc t'avais un guitariste de Fugazi, t'avais tous les gens qui jouent dans Godspeed et Seven Man's Island qui l'entouraient et qui étaient à ses petits soins. Enfin, vraiment, on sentait qu'ils étaient vraiment là pour lui. Voilà, t'avais un, je sais pas si on peut dire un tour manager, parce que c'était pas une tournée très dans des lieux incroyables, mais quelqu'un qui avait beaucoup fait tourner de groupes américains en Europe. T'avais un ingénieur du son complètement incroyable, juste avec un micro, c'est dans un lieu très dur à sonoriser, il a réussi à virer toutes les fréquences parasites pour faire un son incroyable. Voilà. Donc c'était super.
C'est un garçon qui savait se faire entourer quand même, Thierry Vic Chestnut.
Alors c'est ça qui est assez particulier, c'est que pour un solitaire et quelqu'un qui avait autant de mal à être dans le monde, à avoir réussi à faire des belles rencontres, d'avoir attiré effectivement des personnes qui le prennent sous son aile ou qui ont envie de l'épauler, de l'aider à faire des albums. Je parlais de Michael Stipe tout à l'heure d'R.E.M., mais c'était un peu ça tout au long de sa vie. En fait, il y a eu sa femme Tina, pareil, qu'il a croisé par hasard à Athens, qui finalement ils se sont plus jamais quittés, mais qui a été plus qu'une... C'était une compagnon de vie, quoi, d'aventure, de route. C'était, elle a joué avec lui. À la base, elle faisait du violon, mais elle a fait de la basse dans son groupe. Et même quand ils se sont séparés, en fait, elle a continué à l'accompagner et à supporter, à le supporter dans tous les sens du terme, pour le coup. Le supporter, le soutenir et supporter aussi parfois sa noirceur. Et donc, on parlait de Godspeed, Silverman Zion. Effectivement, ça a été plutôt salvateur pour lui de se faire entourer par ces brillants musiciens, en fait, de Montréal. À la fin de l'année 2006, en fait, il est perdu parce qu'il a perdu un nouveau contrat, parce que sur un coup de tête, il a encore poussé une gueulante ou pas honoré une tournée, parce que c'était ça aussi Vic Chestnut, c'était pas que des bons moments, c'était aussi une personne qui était très très mal aussi dans sa peau et qui, sous couvert d'humour ou de gentillesse aussi avec les gens, il pouvait être aussi très dur et très, très blessant, mais parce qu'il l'était avant tout envers lui. Donc il n'avait plus de label, il n'avait plus de producteur, Et Jem Cohen, qui était un artiste plasticien que connaissait aussi Michael Stipe, pour le coup, qui avait migré à Montréal, trouvait que ses deux derniers albums, en fait, n'étaient pas à la hauteur de son talent. Et il était très virulent, voilà, en disant « t'as pas fait un bon album depuis des années ». Et je suis pas producteur, mais voilà, j'ai envie de faire avec toi un nouveau disque. Il faut que tu aies une bonne équipe avec toi. Et il l'emmène à Montréal et du coup, voilà, donne naissance à North Star Deserter en 2007 et puis Undercut en 2009. Donc vraiment deux des albums les plus beaux de Eric Chestnut, mais aussi un peu de l'histoire de la musique. Voilà.
Quel rôle Michael Stipe, va jouer dans l'enregistrement du deuxième album qu'on va écouter tout à l'heure, West of Rome?
Alors, beaucoup plus humble. Déjà, il l'est déjà pour le premier, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il disait « Moi, j'ai rien fait, en fait. J'ai juste ouvert la porte pour qu'il rentre, et puis la personne à la console a juste appuyé sur un bouton et fait « Rick ». Pour le deuxième, en fait, il y a un peu plus d'arrangement, un peu plus de volonté de préparer quelque chose, parce que là, cette fois-ci, le coup d'essai, le hasard qu'avait donné Little, cet heureux accident, en fait, ça allait pas être ce qui allait se reproduire pour chacun des autres albums. Là, Vic Chestnut, en fait, en sortant de Little, tout de suite, il a envie de vraiment réfléchir pour un nouvel enregistrement, mais là, de le préparer, de le vouloir. Donc, Michael Stipe, en fait, est aussi à la production du deuxième album, mais ils vont vraiment réserver un studio et s'isoler vraiment dans un petit trou perdu aux États-Unis. D'ailleurs, en 91, en fait, pendant que va exploser complètement REM à l'échelle planétaire, en fait, c'est là où le premier million va être franchi, en fait, pour la vente de l'album Out of Time. En fait, il va l'apprendre pendant cette période d'enregistrement. Et donc, en fait, il va vraiment profiter, Michael Stipe, de ce moment-là, à l'écart, en fait, presque de la société, en fait, parce qu'il se dit, quand je vais finir là cet enregistrement, là, par contre, je vais retourner, en fait, dans la faune, et voilà, et je vais perdre cette tranquillité. Donc, il y a aussi ça qu'il met dans sa manière de produire. Alors, en fait, il joue un peu de clavier aussi sur le premier album. Là, tout à l'heure, on a entendu Isadora Duncan. En fait, c'est lui, sur la version studio aussi de Speed Racer. Il fait un petit clavier comme ça en fond avec des chœurs. Donc, il est là pour accompagner, en fait. Je ne sais pas si c'est humble ou si c'est vrai, mais en tout cas, voilà, il disait, moi, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste permis à Vic d'entrer dans le studio.
Yann, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'album West of Rome de Chestnut?
Oui, alors, un peu plus produit. Et moi, du coup, tout à l'heure, j'ai joué une autre chanson qui s'appelle Sponge sur cet album. Et il y a un truc que j'aime bien sur cette chanson. Thierry me dira si je dis une bêtise, mais au fond du mix, il y a des violons qui jouent pas parfaitement juste, mais qui sont du coup très très beaux. C'est ses nièces qui jouent, c'est ça. C'est nice. Et voilà, donc il y a des petits arrangements en plus qui sont très très beaux. Et non, c'est un super disque aussi. Bah, c'est un peu dans la même veine que le premier, un peu plus d'arrangements. Voilà, moi j'aime beaucoup ce disque aussi. Les deux premiers sont très 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 beaux.
Et West of Rome, c'est il emprunte ça, en fait, au titre d'un recueil de nouvelles de John Fante, en fait, qui est connu pour Mon chien stupide, et qui n'a rien à voir avec les nouvelles ni l'univers de John Fante, en fait. Mais voilà, il avait lu, en fait, ce recueil-là, il avait envie de le titrer et de le dater, en fait, pour lui. Ça a été au moment où il a enregistré l'album, et il l'a appelé West of Rome pour cette raison un peu anecdotique.
On écoute Bug, Vic Chestnut.
Michelle is willing, our little Sarah, daughters of the American Revolution. Striper loves Jesus, and I love a girl against my better judgment, 'cause I feel like a squirrel. My roommates, they got married, and I booted up. And a friend of ours told me that I was disgusting. My roommates, they got married, and I booted up. And a friend of ours told me that I was disgusting. Walhalla's pinned to the edge of South Carolina. We interstate travel just to free a man from China. A hotel full of Pakistanis,
and a front porch filled with greasy, greasy grannies. When the bug hits, that's the time to scratch it. When the bug hits, that's the time to scratch. When the bug hits, that's the time to scratch it. When the bug hits, that's the time to scratch. Carolina, we interstate travel just to free a man from China. Hotel full of Pakistanis and a front porch filled with greasy, greasy grannies. When the bug hits, that's the time to scratch it. When the bug hits, that's the time to scratch. When the bug hits, that's the time to scratch it. When the bug hits, that's the time to scratch.
Et c'était Bug de Vic Chestnut, extrait de West of Rome, donc sorti en 1991. Quel est le sentiment qui motive, qui a motivé le plus le besoin d'écriture de Vic Chestnut?
Je pense que c'est un mélange de pulsion de vie et de pulsion de mort, en fait.
Tout le temps.
Oui, tout le temps. Et ça me rappelle des conversations qu'on avait avec Yann, où, à une époque où Yann était vraiment très intransigeant sur des personnes qui faisaient de la musique, en fait. Où, je me rappelle, ça m'avait marqué, tu avais dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment une question de vie ou de mort de faire un morceau? Toi, Yann, il avait de la colère il y a quelques années. Et il supportait pas la demi-mesure non plus, quoi. Et du coup, ça m'a vachement marqué. C'est quelque chose qui m'accompagne aussi, cette phrase-là que tu avais dit. Et je pense que c'est ça, quoi. C'est une question de vie ou de mort, en fait, les morceaux de Vic Chestnut. Parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Il faut les faire, en fait. Et du coup, des fois, ça peut être comme ça. En une heure, il fait un morceau incroyable. On ne sait même pas comment il a trouvé un accord ou comment il va trouver une manière de chanter, parce que c'est ça aussi, c'est que l'accident dont on n'a pas parlé, mais du coup...
Oui, voilà, on n'a pas assez parlé par rapport à...
qui a vraiment, finalement, marqué ce qu'il est devenu en tant qu'artiste, c'est que au niveau du diaphragme et de la manière de parler, de chanter, de respirer, tout simplement, de jouer de la guitare également, il ne pouvait plus chanter et jouer normalement, donc il a fallu réapprendre à chanter différemment. Et donc des fois, ça pouvait prendre une heure pour faire une chanson incroyable, et des fois, ça pouvait mettre des années. Mais quand il avait une idée en tête, en fait, il y avait quelque chose qu'il avait besoin d'exprimer. Il fallait qu'il le fasse, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Il y a des albums qui viennent autour d'une seule et même idée parfois, en fait. Donc, l'album Drunk, en fait, ivre, qu'il a enregistré en deux jours, en fait, avec deux autres amis, un bassiste et un batteur, avec un sentiment très violent contre lui de dégoût et de rejet d'avoir encore fait du mal à Tina, la femme qu'il aime, de s'être disputé avant de partir enregistrer. Et tout l'album est empreint de colère, de rejet, de d'aigreur envers lui-même. Et puis d'autres, en fait, beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés, en fait, presque en écoutant les chansons, on sait lesquelles, en fait, il a enregistrées en étant, pour le coup, sur une pulsion de vie ou une pulsion de mort.
Et alors, écoutez un nouvel extrait d'un album de Vic Chestnut, de l'album Is the Actor Happy, probablement le disque le plus accessible et le plus lumineux de l'américain. Je ne sais pas si tu partages cet avis.
Eh ben, en fait, le plus pop, en tout cas, ça c'est clair, parce que du coup, alors Thomas Dubois, donc qui joue dans Elstrange, et Sagdi, qui n'est pas là ce soir, mais qui en fait nous a accompagné Yann et moi sur des rencontres avec Vic Chestnut. A repris en fait deux morceaux de cet album-là et ça veut donc dire effectivement qu'il y a un côté très pop parce que Thomas il est très très pop quoi, il adore voilà la power pop, il adore les choses les plus pop des Beatles, il adore Oasis etc. Donc du coup en fait comme il connaissait pas, il s'est penché sur un album pour lui accessible en tout cas sur des mélodies, mais c'est ça qui est bizarre et c'est ça qui vraiment me fait de plus en plus le comparer à Elliott Smith, c'est qu'en fait c'est l'un des albums les plus noirs, les plus dépressifs de Vic Chestnut. En fait, c'est l'un des albums qu'il a écrit quand il était presque au plus mal, en fait. Il a même tenté de se suicider pendant l'enregistrement. Il a tenté de se suicider plusieurs fois, mais notamment pendant cet album-là, qui a été enregistré en fin d'année 94. Et en fait, son père et sa mère, à quelques années d'intervalle, sont décédés, en fait, à cette période-là. Et ça a ravivé vraiment pour lui des douleurs terribles. Et donc, il l'a vraiment écrit, sur... À ce moment-là, en fait, il commençait à devenir un peu connu dans son microcosme, mais du coup, tout le monde lui posait qu'une seule question, c'est « Alors, Michael Stipe, comment il est ?» C'est comme ça qu'il a écrit « Guilty by Association »,« Coupable par association », en fait. Arrêtez de me parler tout le temps de cette personne-là, en fait, qui... il m'a aidé, mais du coup, je suis aussi capable d'exister en dehors de lui. « Is the actor happy ?» c'est « Est-ce que le comédien est heureux ?» Voilà, il se dit acteur. Acteur, c'est pas évident à traduire en fait. Acteur, en fait, c'est comédien, mais ça peut vouloir dire aussi d'autres choses, quoi. Donc effectivement, c'est ça que un mélange d'ombre et de lumière en fait sur cet album-là, mais qui est super pop et qui on peut chanter les morceaux et les reprendre en chœur, quoi.
With questions.
Et c'était le titre Guilty by Association de Vic Chestnut, extrait de l'album sorti en 1995, Is the Actor Happy, donc album effectivement plus arrangé, plus lumineux en apparence. La lumière quand même, elle entre parfois dans la vie et les chansons de Vic Chestnut. Il aura eu des moments heureux, Chestnut, tout au long de sa vie. Tu as parlé de son expérience avec son aventure avec Godspeed You Black Emperor, Silverman Zion.
Ouais. Oui, bien sûr. En fait, il aura eu des moments heureux, de partage, de rencontres avec toutes sortes d'artistes ou de concerts, en fait, parce que. Alors moi, comme Yann aussi. Alors moi, je l'ai vu que deux fois en concert. J'ai vu en 2007 et en 2008, une fois à Rouen. Bah du coup, là où j'ai vu Yann. Jouer en première partie, on se connaissait pas à l'époque encore, on avait des amis communs mais on se connaissait pas encore. Et au Havre, au Cabaret Électrique, donc dans une super salle qui était dirigée par quelqu'un qui est toujours d'ailleurs super, Philippe Renaud, qui avait fait venir Joseph Arthur, aussi Joseph Arthur, donc j'avais vu, mais du coup là c'était Vic Chestnut. Et il y avait les Teen Hoons, un groupe en première partie au Havre, je me rappelle, au Havre, et du coup pareil en fait, groupe de trois jeunes filles à l'époque, et pareil, il avait cette bienveillance, cette gentillesse d'être venu regarder un peu la première partie, de rester, d'être super gentil. Et moi, du coup, je lui ai juste parlé un tout petit peu. J'avais super peur parce que je me suis dit, en fait, il va m'envoyer chier, quoi, avec mon album, là. Et d'une gentillesse incroyable, quoi. Il était tellement touché. Et ses yeux se sont illuminés quand j'ai sorti mon CD de Little, pour le coup, en disant, mais comment ça se fait que t'as ça? Mais il se demandait même, mais comment c'est possible qu'un Français en fait avait son premier album et du coup tous ces moments-là, il aimait beaucoup rencontrer les premières parties, il aimait beaucoup parler aussi parce que pendant ses concerts, il parlait beaucoup. Donc oui, il y avait des moments très heureux et.
Et moi, je dirais autre chose. Je pense qu'il y a plein de gens qui font de la musique très noire, très triste, mais qui sont heureux quand ils jouent de la musique très triste. Je pense que... Et ça, on l'entend, parce que ils sont heureux quand ils jouent, ou en tout cas, ça leur procure quelque chose de très positif, de jouer de la musique très triste. Voilà. Donc je pense que Vic Chestnut, c'est une idée, hein. Je sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais on entend quand même, tu disais, une lumière. Bah, je pense que c'est aussi le bonheur de jouer de la musique.
On se sent bien, dans la parler en antenne, on se sent bien dans les disques de Vic Chestnut.
Ouais. C'est pas des morceaux qui font déprimer, je trouve, même les morceaux les plus sombres ou les plus tourmentés ou les plus noirs. Comme tu dis, en fait, on est bien quand on les écoute et c'est pas des choses qui nous font sombrer, au contraire, ça peut être des choses qu'on partage, qu'on comprend et qui nous font un peu, voilà, qui nous émeuvent parce que ça fait des résonances avec parfois ce qu'on vit ou ce qu'on traverse. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on est bien, en fait, presque. Accompagné un peu plus fort et je pense que ça c'est aussi une manière cathartique de vivre les choses, quoi. C'est le principe en fait d'avoir à transcender une émotion ou une situation pour en faire autre chose, et il avait quand même pas mal de pudeur malgré tout, donc même si c'est des situations qui s'ancrent sur quelque chose de personnel, il mettait quand même de la distance aussi, et pour lui je pense que c'était pas non plus il n'avait pas envie de donner de la souffrance, de la douleur aux gens quand il y consacrait du temps, en tout cas à faire un album ou une chanson, quoi. Il voulait vraiment que les personnes aient plaisir à l'écouter et à se réunir pour venir le voir en concert ou écouter ses disques.
On va écouter justement une version de Thomas Dubois, qui n'est pas là ce soir, qui n'a pas pu venir malheureusement, qu'on salue s'il nous écoute, donc sous son nom d'artiste El Strange, Guilty by Association. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être, Thierry?
Je suis très content parce que du coup, c'est la dernière compilation, je crois, en date de notre collectif Équilibre Agile, qu'on a cofondé avec plusieurs personnes, dont avec Yann. Parce que je suis trop content, j'avais trouvé le nom Équilibre Fragile avec Yann un jour à Paris, où on allait voir Silverman Zion à la Cigale.
Ouais,
et je disais plein de noms, et c'est Yann qui m'a dit « Ah, celui-là, il est bien comme nom, Équilibre Fragile ». Donc j'ai aussi construit ça avec Yann, Équilibre Fragile. Et donc Thomas a joué ce morceau-là qui ouvre la compilation. Thank you.
1975, and I've been trying. Goodbye, association. You've been canonized, and I've been right. Goodbye, association. All the little buildings with the same obsession. Call the front buildings with the shabbies and their guns, loaded with questions.
Strange qui a fait sienne un des titres de Vic Chestnut, c'était Guilty by Association. Pour l'instant, ce qui me tient sur terre, c'est l'envie de faire mieux musicalement. Chaque nouveau disque est un challenge complètement renouvelé pour lui. Est-ce qu'on peut parler d'un éternel insatisfait?
Oui, clairement. Et puis, insatisfait à s'interdire aussi d'être heureux, à gâcher beaucoup de moments, à se sentir un imposteur. Donc voilà, on parlait du côté lumineux, mais... oui, ça allait jamais. En fait, il faisait jamais deux fois la même version des chansons. Il était très dur, je leur dis, hein, il était dur avec les autres, mais il était surtout dur avec lui-même.
Donc il meurt le 25 décembre 2009, le jour de Noël. Qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances de sa mort?
Alors, j'ai essayé de recouper pas mal de choses pour un petit peu en comprendre un peu. En fait, il faut savoir que il avait, donc je l'avais dit tout à l'heure, il a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours parce que c'était pas qu'un dépressif, c'était aussi donc sa situation, donc son handicap le faisait énormément souffrir. Voilà, il avait vraiment des moments pour le coup de grande douleur en fait, dans les vertèbres, dans les muscles, dans les veines. C'est ce qui lui a amené à prendre toutes sortes de drogues, dont la marijuana thérapeutique, donc aux États-Unis. Et là-bas, en fait, dans ce beau pays, il n'y a pas la couverture sociale qu'il y a ici chez nous. Et donc, il était littéralement ruiné en fait à la fin de sa vie, en fait, malgré tout ce qu'il avait fait. Et déjà en 94, à l'initiative, pour le coup, encore un coup d'REM, il y avait un album caritatif avec les plus grands noms du rock indé américain, Soul Asylum, REM, Garbage, Smashing Pumpkins. En fait, chacun avait repris une reprise de Nick Chestnut, et tous les droits en fait lui sont revenus pour qu'il puisse payer ses frais de santé. Et en 2009, rebelote en fait une erreur en fait. Voilà, je parle un peu de ça, mais c'est vraiment, enfin, j'aime pas du tout parler de ces choses, voilà, un peu racoleuses ou polémiques, mais du coup
C'était pas l'idée, de la question.
Non, du tout. Mais du coup, voilà, il y a eu des erreurs en fait médicales et de facturation, etc., qui l'a amené, qui le conduisait à vendre en fait sa maison, en fait, à presque devenir SDF. Et du coup, cette période-là de décembre, donc voilà, où je leur dis, il avait perdu son père, sa mère. C'était, je pense, la goutte d'eau. Et voilà, il prend énormément de médicaments qui l'amènent à faire un arrêt cardiaque. Et du coup, sa femme est aujourd'hui, enfin son ancienne femme est aujourd'hui son ayant droit en fait, parce qu'il laisse derrière lui pas d'enfants, pas d'autre famille que cette personne-là qui maintenant en fait est la détentrice de ses droits. En fait, il y a d'autres albums, il y a d'autres choses en fait qui sont jamais sorties, et elle verrouille tout, que ce soit documentaire, enregistrement live, parce que du coup l'enregistrement de la Sainte Croix des Pelletiers, il a été enregistré en fait, et chez Pierre Le Marchand, donc notre ami. Avait eu accès à cette bande-là, mais vraiment, ça, elle refuse tout. Quoi.
L'enregistrement est incroyable.
Il est, ouais, parce qu'on a pu l'entendre.
Mon set a été enregistré.
Ouais.
Et le mec me l'a envoyé. Et c'est un mec qui est allé dans tous les concerts à l'époque avec un micro d'ambiance, plus la sortie de table, il mixait l'ensemble. C'est un album qui doit être incroyable, mais bon, voilà, si personne ne peut le sortir.
Ce qui est plutôt. Alors, ce qui est frustrant en tant que fan, mais ce qui est plutôt beau, du coup, parce qu'on voit, hein, genre Bachung. C'est super hein, que des choses posthumes sortent, mais du coup, quid de la personne principale en fait, si elle voulait pas que ça sorte, pourquoi est-ce que des ayants droit en fait le sortent maintenant?
Ah, c'est toute une question.
En tout cas, le mercantilise en fait, mettez-le gratuitement maintenant qu'il est décédé. Du coup, en fait, elle, par contre, elle verrouille tout. Alors voilà, c'est plus frustrant, mais au moins, ça rend honneur malgré tout à l'intransigeance qu'était Vic de dire, ok, ça je le sors pas et personne n'entendra jamais.
Je propose pour clore cette émission, ou quasiment la clore, qu'on écoute justement une toute très courte interview de Vic Chestnut. On va réentendre sa voix, entendre ses intonations, ça va nous faire plaisir. On écoute Vic Chestnut.
Il semble que depuis que j'ai sorti mes disques et que je suis en tournée, que j'ai quelque chose à faire, c'était une bonne thérapie pour moi. Au lieu de rester assis dans un fossé pendant quelques jours, à essayer de me calmer suffisamment pour revenir. Tu vois ce que je veux dire? C'était plutôt déprimant, même si c'était une période géniale. Je n'ai jamais eu autant de plaisir que de m'évanouir dans un fossé pendant quelques jours. Je suis vraiment excité par cette chanson. Et je n'aurais jamais pensé qu'en un million d'années, en 1990, 1985, ou à chaque fois qu'elle est sortie, elle chanterait. Une chanson, une ligne, ça me stupéfie que les gens font toujours ça, tu sais. Tes chansons sont tellement tristes. Tu ne penses pas, tu sais, serait-elle si triste si tu n'étais pas en fauteuil roulant? Et je dis toujours, tu ne sais pas, tu sais, bien sûr, tu sais, je pense que mes chansons sont... C'était encore plus triste avant ça. C'était ces mois après mon crash que j'ai commencé à écrire de meilleures chansons.
Et ça me paraissait important de terminer sur une brève interview de Vic Chestnut. J'ai une fois de plus passé un très bon moment avec vous, messieurs. C'était trop court pour parler de Vic Chestnut, une heure d'émission. On n'a abordé qu'une petite partie de son parcours et de ses œuvres. Nous, on se retrouve dans 15 jours à 20h sur les ondes de la radio hébroïcienne Principe Actif. Pour la dernière de l'année scolaire, j'aurai le plaisir de recevoir le musicien suisse Mark Croft, tête pensante du Mark Croft Klezmer Ensemble. Voilà, on change un peu de registre. bien qu'on trouverait forcément des points communs avec Vic Chestnut. Il nous parlera entre autres d'un remarquable album du groupe intitulé Urban Myths. On se quitte avec la deuxième reprise de Yann alias My North Eye, ça s'appelle Sponge. Un grand merci à tous les deux, messieurs. Bonne continuation.
Merci beaucoup, Laurent. Merci, vraiment, hein. À chaque fois, ouais. Ta générosité, ta fidélité, le plaisir de te retrouver. Voilà, mais merci. Puis merci beaucoup à Yann, encore un coup, de m'avoir accompagné. Voilà.
Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Donc, on se quitte avec Sponge en acoustique de My North Eye.
Pleasure is melting like chocolate. My blue ribbon gumption is gone. All my gravy must have soaked into something. And the world. The filthy street. The cold concrete, the phony earth below my feet, the ancient order of the street and the world. The world is a sponge, and the world. The world. Crisis passes, and when the coast is clear, I'll be buffed down to a liquid, and the world is a sponge, and the world filthy street, the cold concrete, the phony earth below my feet, the ancient order of the street and the world. The world is a sponge, and the world. The world. And the